partager le savoir. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Axel Mauger.
Je reçois aujourd'hui le président Georges Viala, qui est le président de l'Alliance française de Bordeaux-Aquitaine et qui nous fait le grand honneur de venir nous parler de l'Alliance française de Bordeaux et de sa conception de l'évolution du français actuellement. Voilà. Alors, président Viala, au nom de Canal Académie, je vous remercie infiniment de vous être déplacé et nous sommes très heureux de vous accueillir ici. Alors, ma première question, c'est évidemment si vous pouvez nous rappeler brièvement quelques éléments de l'histoire de l'Alliance française de Bordeaux.
Oui, très, très volontiers. D'abord, je voulais vous remercier de votre invitation et donc je vais vous rappeler quelques éléments de l'histoire de l'Alliance française de Bordeaux que je vais inscrire malgré tout dans l'histoire des alliances du monde, puisqu'il se trouve qu'un des fondateurs des alliances françaises, Pierre Foncin, a commencé sa carrière à Bordeaux. L'Alliance française a été créée par deux hommes tout à fait éminents, comme vous devez le savoir, Paul Cambon, qui fut chef de cabinet de Jules Ferry, et Pierre Foncin, qui a été nommé en 1876 à la Société de géographie de Bordeaux. Et il est resté à Bordeaux jusqu'en 1882. Et en 1883, montant à Paris, étant nommé à Paris, il a eu l'idée, avec Paul Cambon, de créer les alliances françaises, tout simplement. Donc c'est un homme extrêmement important à Bordeaux et pour les alliances.
Je vous félicite de citer le nom de Pierre Foncin et aussi de la Société de géographie, car c'est la société la plus ancienne en France, qui a été, vous le savez bien, fondée en 1821 et qui accueille, qui aujourd'hui est une éminente société qui fonctionne extrêmement bien. Mmh. Et donc, même, il faudrait peut-être penser à rapprocher même les énergies entre les deux parties.
C'est évident. C'est pour ça que je me suis permis de rappeler cet élément historique. Et donc, les Bordelais sont quelque part à l'honneur, sachant que l'actuel secrétaire général de l'Alliance française, je le précise aussi, de l'Alliance française de Paris, est également un Bordelais. Jean-Claude Jacques a fait ses études à Bordeaux, a une grande partie de sa famille encore à Bordeaux. Donc vous voyez, l'histoire des alliances et Bordeaux, c'est une histoire extrêmement mêlée. Et donc l'Alliance française de Bordeaux, pour en venir à elle, a été officiellement créée en 1982, donc à peu près un siècle après la création des alliances, mais véritablement...
Très tardive.
Oui. Car les alliances, évidemment, on va probablement y revenir dans un instant, ont été plutôt créées à l'étranger et se sont implantées ensuite sur le territoire national que très récemment.
Oui, on ne sait pas toujours d'ailleurs qu'il y a des alliances françaises, enfin à part le centre de Paris, on ne le sait pas toujours. Hein.
Oui, c'est évidemment un sujet d'étonnement pour la plupart des interlocuteurs de savoir qu'il existe des alliances françaises en France. Et alors, on ne comprend pas pourquoi. La réponse est assez simple. Il faut savoir que la France est un pays d'accueil d'étrangers qui peuvent trouver dans les alliances des structures pour apprendre le français. Il y a beaucoup d'étrangers qui souhaitent apprendre le français. Les alliances françaises, en tant qu'école de langue française, sont un instrument tout à fait...
L'antenne de Bordeaux, Monsieur le Président, c'est combien de professeurs, combien d'étudiants actuellement, au jour d'aujourd'hui ?
Alors, aujourd'hui, nous avons très précisément 9 salariés, dont 5 professeurs à temps plein, qui travaillent pour l'Alliance française de Bordeaux. Et nous accueillons, bon an mal an, à peu près entre 1000 et 1500 étudiants. Nous venons de faire un bilan de l'accueil de ces étudiants. Sur les 3 dernières années, on a accueilli plus de 3000 étudiants venant de 107 pays. Donc c'est tout à fait extraordinaire et ça démontre bien que la France reste un pays extrêmement attractif, et Bordeaux en l'occurrence, sachant que nous avons l'avantage à Bordeaux, comme dans quelques grandes villes, d'avoir un nom connu à l'étranger, et le vin évidemment est porteur d'image et de réputation, et donc du même coup, les étrangers viennent bien évidemment à Paris, mais tout de suite Bordeaux est apprécié.
Et quels sont les étrangers qui viennent le plus? C'est-à-dire, parmi ces 107 pays, quels sont ceux qui viennent en tête parmi ces pays?
Alors, ça dépend. Disons, ça va vous paraître un peu étonnant, mais aujourd'hui, les statistiques ont démontré que nous avions beaucoup d'étrangers venant des pays d'Asie, beaucoup de Chinois, beaucoup de Japonais, qui n'est pas lié forcément à l'histoire de Bordeaux, mais probablement aux efforts que nous avons faits depuis plusieurs années pour nous faire connaître dans ces régions du monde. sachant qu'aujourd'hui, les Européens sont en train de revenir en masse, et notamment les Espagnols. Donc les Espagnols, la proximité évidemment de l'Espagne, Bordeaux de l'Espagne, fait que nous avons quelques Espagnols, et pas mal d'Espagnols de plus en plus, qui viennent à Bordeaux. Donc Bordeaux est une... on retrouve dans la composition des étudiants étrangers un peu de l'histoire de Bordeaux aussi.
C'est très bien, parce que justement, certains parlaient il y a encore quelques années d'une perte de vitesse, le français avait l'air de diminuer en Espagne, etc. Bien, je crois que, vous savez, souvent les gens disent ça, et je suis très frappé, et ne connaissent pas vraiment les statistiques. Par exemple, on sait très peu que sous le franquisme, il y avait beaucoup moins d'apprenants de français qu'aujourd'hui. Même si aujourd'hui, bon, il y a d'autres dynamismes, l'anglais,
c'est évident.
Alors, si vous voulez encore nous présenter, bien entendu, votre Alliance de Bordeaux, alors qu'est-ce que vous donnez comme cours?
Alors, nous donnons, disons, différents cours. D'abord, des cours de langue française assez classiques, de langue français et langue étrangère. Ensuite, nous avons spécialisé un certain nombre de cours de français des affaires. Pour des hommes d'affaires ou des cadres d'entreprise qui arrivent dans notre région et qui ne parleraient pas évidemment le français ou le maîtriseraient moyennement.
Et Combien de personnes accueillez-vous à peu près cette année autour de ces hommes d'affaires étrangers ou femmes d'affaires?
Pour tout vous dire, assez peu aujourd'hui, et nous allons essayer de développer, disons, ces cadres et des activités autour des cadres d'entreprise. Mais aujourd'hui, ça doit représenter entre 10 et 20 cadres par an, donc ça représente à peu près rien.
C'est un début.
Mais je pense que dans l'avenir, compte tenu des projets en matière d'investissement étranger à Bordeaux, comme dans pas mal de grandes villes, je pense que cette population va croître. Et c'est l'apprentissage du français par ces cadres est un gage également pour faire en sorte que ces cadres restent à Bordeaux. Et leur famille. Ce qui est important également, c'est que la famille, l'environnement familial, aussi soit touché par l'apprentissage du français, car il est bien connu que si l'environnement familial ne maîtrise pas bien le français, il est tenté de repartir ailleurs dans des contrées plus
exotiques. Vous avez tout à fait raison, Monsieur le Président, et j'ai pu remarquer que souvent aussi, nous n'avons pas une démarche suffisamment prospectrice, c'est-à-dire souvent, beaucoup de gens qui sont là des cadres étrangers ne savent pas que ce genre de cours existe. Si
absolument.
Et ça, c'est un gros problème un peu partout dans tous les domaines, d'aller dire aux gens, voilà ce qui se passe, voilà ce que nous faisons, etc. Enfin, je suis sûr que votre dynamisme ne peut que qu'aller en s'accentuant, il va sans dire.
C'est sûr, il y a une démarche volontaire à faire et structurée vis-à-vis de ces différents publics que nous avons d'ailleurs entrepris depuis plusieurs mois. En ayant la ferme intention de les toucher de manière beaucoup plus précise. J'ajouterais également que parmi les publics, le public des jeunes, et en particulier des jeunes adolescents, devient pour nous également une priorité, étant donné que ces populations, ces tranches d'âge, c'est quand même l'avenir du français qui est en jeu. Et donc nous avons développé toute une politique aujourd'hui, et toute une série d'initiatives, pour toucher des jeunes lycéens et des jeunes collégiens qui vont venir de plus en plus à l'Alliance française de Bordeaux.
Ça, là, je crois que vous touchez vraiment le point d'avenir, c'est très, très important. Au fond, pour toucher ces jeunes, aller à la rencontre de ces jeunes, il faut comprendre leur vie, leur façon d'être, pour qu'ensuite ils viennent eux-mêmes voir comment nous fonctionnons, nous, dans le monde adulte, si j'ose m'exprimer ainsi. Ça, je crois que c'est important. Alors, il y a une autre question que je voulais vous poser, c'est qu'en observant l'activité des alliances françaises à travers le monde, est-ce que vous avez le sentiment que la langue française maintient son influence? Une grande question, ça.
Alors, évidemment, c'est une question extrêmement importante et primordiale.
Cruciale.
Je pense que, je vais vous donner tout un tas d'éléments qui attestent de cette vitalité, contrairement à l'image d'ailleurs reçue notamment en France, où on a toujours l'impression que le français est en perte de vitesse. Aujourd'hui, un certain nombre de faits sont là, et le français a pu être, disons, déconsidéré à une certaine époque, mais ne l'est plus depuis qu'un certain nombre de dispositions ont été prises. Je rappellerai que le français est quand même la 7e langue la plus parlée à travers le monde, parmi les plus de 6000 langues qui sont recensées dans le monde, avec à peu près 175 millions de locuteurs. Et si on prend en compte ce que Dominique Voltan appelle la francosphère, nous arrivons à 715 millions de personnes qui peuvent être considérées comme francophiles. Donc ce sont des chiffres tout à fait impressionnants. Le français est avec l'anglais la seule langue universelle présente sur tous les continents. Il y a 30% des pays membres de l'ONU qui sont francophones. Le français est la deuxième langue de travail de l'Union européenne. Il y a environ 1 million de professeurs de français à travers le monde. Et si je parle simplement des alliances françaises, il faut savoir que dans les alliances, dans les 1100 alliances pratiquement qui existent dans le monde, il y a 400 000 étudiants chaque jour qui apprennent le français. Donc le français est aujourd'hui en plein renouveau, et c'est extrêmement encourageant pour la France.
Écoutez, je partage tout à fait votre vision des choses, car moi-même étant un homme de terrain, j'ai pu constater ici et pu vérifier les chiffres que vous apportez. D'ailleurs, même avec des toutes petites précisions, on considère, Dominique Bolton ou d'autres que vous avez cités, bien entendu, que le français première langue, c'est environ 110 à 120 millions, de personnes. Le français deuxième, voire troisième langue, c'est environ, quand on dit 175, c'est même un peu limitatif. C'est plutôt, vous rajouteriez aux 110 millions première langue, à mon avis, avec les apprenants français, on peut dire 150 millions. Donc ça ferait à peu près 260. Et c'est-à-dire que je comprends dans les 260, 70 à 80 millions de jeunes dans le monde qui apprennent le français, etc. Donc, vous voyez, si vous retirez le 80, ça fait 260.80, on est à 140 pour première et deuxième langue, etc. etc. Donc, c'est en effet très, très important. Et là, vous avez raison, et j'apprécie beaucoup ce que vous venez de dire, parce que ce côté dynamique, il existe, ce renouveau, il existe. On l'a vu à Vienne récemment, au colloque de Vienne, où était votre directeur général, M. Bardet. Et si vous voulez, donc, il y a là vraiment pour le français, il est étonnant de voir à quel point, je dirais, la génération de mai 1968, peut-être obnubilée en partie par les États-Unis, et sans faire d'anti-américanisme aucun, a une vision de leur propre pays qui n'est pas conforme à ce qu'il est véritablement. Et ça, donc je partage tout à fait votre vision des choses. Alors, une autre question que j'aimerais vous poser, Monsieur le Président, alors que l'on comprend bien la mission des alliances françaises en dehors de la France, on peut s'étonner que des alliances françaises se soient développées en France. Pouvez-vous nous présenter leurs spécificités et leurs actions culturelles? Et oui, en fait, c'est vrai, à côté des écoles de langue, à côté des universités, à côté des collèges, si vous pouviez nous donner quelques chiffres globaux pour l'ensemble de la France, les alliances françaises en France, c'est combien de professeurs et c'est combien d'étudiants? À part en distinguant peut-être l'antenne de Paris, juste c'est un bloc, puis les autres blocs. Combien y a-t-il d'alliances françaises en France, à part le siège de Paris?
Voilà, donc il existe précisément 29 alliances françaises en France, dont 12 enseignantes, sans compter effectivement celle de Paris, et ces 29 alliances accueillent chaque année à peu près entre 8 et 10 000 étudiants. L'Alliance française de Paris en accueillant à peu près 12 000, donc c'est tout à fait considérable. Donc il y a à peu près une douzaine d'alliances aujourd'hui qui sont relativement significatives, plus quelques alliances qui n'ont que des activités d'ordre plutôt animation culturelle, sans proposer des cours de langue comme la plupart des autres alliances le font. Donc c'est un réseau tout à fait considérable, et les alliances françaises en France, à côté des universités et des centres d'enseignement du français, sont en train de prendre une place singulière, sachant que la plupart des alliances sont des associations sans but lucratif. Donc nous avons l'avantage, bien sûr, nous avons le souci d'avoir des activités équilibrées par la vente des cours de français que les alliances françaises peuvent proposer, mais nous ne sommes pas, disons, contraints par dégager des résultats financiers. Ce n'est pas une activité économique à proprement parler. Et donc, cette moindre pression économique fait que nous sommes en capacité, nous avons la possibilité de proposer sûrement des activités plus désintéressées que d'autres structures. En plus, les alliances françaises, par rapport, observant ce qui se passe dans d'autres sphères, et notamment à l'université, ont une spécificité, c'est de proposer des cours extrêmement pratiques, et beaucoup de cours passant par l'oral, moins peut-être par l'écrit. C'est d'ailleurs un sujet qui reste toujours à perfectionner, et la grammaire française est à est également à développer. Mais il n'empêche que les alliances françaises, quand quelqu'un est passé par une alliance française, en France, mais je pense que c'est le cas également à l'étranger, il maîtrise assez rapidement quelques rudiments pour quelqu'un qui ne parlerait pas le français, alors qu'il aurait plus de mal si nous ne passions que par des méthodes écrites.
Chers auditeurs, nous allons nous retrouver dans un petit instant après une courte pause musicale. Je suis très heureux aujourd'hui de recevoir le président Georges Viala, président de l'Alliance française de Bordeaux-Aquitaine, pour notre radio. Alors, monsieur le président, vous étiez en train de présenter ces alliances françaises, ce mouvement de renouveau du français en France, et j'aimerais savoir maintenant, est-ce que vous pensez pouvoir vraiment recevoir davantage d'étudiants, parce que tel est le but de la manœuvre, c'est-à-dire que l'alliance, non seulement celle de Bordeaux, monte en puissance, mais que les autres alliances de France montent elles aussi en puissance. Alors, comment faire pour monter en puissance, si je me permets d'être aussi direct ?
Disons qu'il y a une attente de la part de différents publics à travers le monde pour apprendre le français, comme on l'a dit il y a un instant. Donc, il suffit simplement d'identifier ces besoins, de les aborder de manière assez déterminée, assez structurée, c'est ce que nous essayons de faire à Bordeaux, en prenant toute une série d'initiatives pour se faire mieux connaître par ces différents publics qui envisagent de suivre des cours d'apprendre le français. Donc nous avons un avantage par rapport à toutes les autres structures, c'est justement le réseau des alliances françaises dans le monde. Donc, à travers ce réseau, nous avons décidé, pour ce qui concerne Bordeaux, d'actionner un certain nombre de régions du monde. Nous travaillons actuellement sur les États-Unis, sur la Chine, sur l'Espagne, etc., pour proposer, via les alliances françaises de ces pays, des formules d'apprentissage,
de perfectionnement
de cours de français à Bordeaux. Donc, ça est, nous en sommes à quelques mois, disons, d'expérimentation de cette idée. Et on s'aperçoit d'ores et déjà qu'il y a quand même des perspectives qui se présentent tout à fait favorablement. Nous avons effectué il y a quelques semaines un voyage aux États-Unis. À la suite de ce voyage aux États-Unis qui a duré à peu près 15 jours, eh bien, nous avons déjà pas mal de demandes d'Américains, de jeunes Américains et de moins jeunes qui souhaitent venir à Bordeaux en dépit de ce qu'on peut dire des Américains qui ne seraient pas très 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 intéressé par la langue française. Ce n'est absolument pas vrai pour une catégorie d'entre elles.
Vous avez tout à fait raison.
Voilà.
Tout à fait raison. Je connais assez bien le dossier américain et voilà. Il y a énormément de francophones.
Et effectivement, aujourd'hui, même sur la côte californienne, le nec plus ultra, c'est d'apprendre le français. Le français à Los Angeles, toutes les toutes les stars d'Hollywood, je n'aurais pas utilisé toutes les étoiles d'Hollywood pour franciser ce terme, bien apprennent le français d'une manière ou d'une autre, parce qu'il est très bien. Et c'est un signe de grande culture, et Dieu sait si parfois certains d'entre eux en ont besoin. Je suis extrêmement confiant, sous réserve qu'il y ait une politique et une stratégie relativement bien construites.
Alors, quels sont les problèmes, justement, qui empêchent, vous semble-t-il, en France même, le développement de ce, le recrutement, si j'ose dire, la venue de tous ces étudiants potentiels?
Voilà. Alors, le seul obstacle aujourd'hui que je vois à l'arrivée en France d'étudiants étrangers, c'est les dispositifs qui sont envisagés ou qui pourraient être envisagés pour limiter le flux d'étudiants étrangers, et ce souvent pour de bonnes raisons, de limiter des flux migratoires que la France ne souhaiterait pas accueillir. Il n'empêche que malgré tout, il y a une politique tout à fait claire à définir, et ce que nous craignons par-dessus tout, c'est que le gouvernement actuel ou les gouvernements futurs soit tenté de limiter le nombre d'étudiants venant en France pour exclusivement apprendre le français. Ça, c'est notre inquiétude, car il en dépendra de leur attribution de visa. Si la France est très très restrictive sur ce plan-là, eh bien.
Vous sentez ce côté restrictif?
Oui,
dans le cas de la ville de Bordeaux.
Pas forcément de la ville de Bordeaux, mais d'une manière générale en France. Nous avons eu une crainte il y a quelques mois qui s'est avérée pour l'ensemble des alliances de France par rapport aux Chinois. Il y a eu, à un moment donné, le gouvernement français a fortement limité l'arrivée de la délivrance de visa pour les Chinois. Bon, je pense que suite au voyage de Jacques Chirac en Chine récemment, les portes pourraient à nouveau s'ouvrir. Mais il n'empêche que nous avons connu, toutes les alliances de France ont été affectées par ces dispositions, y compris l'Alliance française de Paris, les Chinois représentant quand même la troisième communauté d'étudiants en France, après des étudiants du Maghreb ou d'Afrique francophone.
Oui, c'est considérable. Mais bon, écoutez, tout ça est important. Alors, à votre avis, autre question intéressante, à votre avis, quel est le principal enjeu auquel sont confrontées actuellement les alliances françaises d'une manière générale et celles implantées en France, plus particulièrement labellisation, CEF? Qu'est-ce que c'est que le CEF?
Le Centre d'études de français.
Ah, Centre d'études de français, voilà. Oui, d'accord. Très bien.
Donc, en fait, ces alliances, c'est un peu lié à ce que je viens de dire.
Tout à fait.
C'est en fait, la première chose que les alliances françaises sont en train de décider, c'est de labelliser leurs activités pour les faire reconnaître comme étant d'excellence et de bonne qualité. Car il y a beaucoup d'acteurs sur le terrain de l'enseignement des langues et du français en particulier. Et donc il y a tout un processus d'ailleurs voulu par le ministère de l'Éducation nationale qui est engagé depuis maintenant 2 ans et auquel les alliances françaises vont probablement adhérer dans les semaines qui viennent. Et qui va consister à labelliser les alliances françaises qui le souhaiteraient et à reconnaître par là même la qualité de leurs enseignements. Car ça, c'est un point très important, de telle sorte qu'ensuite les attachés culturels à travers le monde soient éclairés sur la qualité de ces alliances en France et puissent orienter les demandes sur ces alliances labellisées. Et avec peut-être la délivrance des visas associés. Donc là, il va y avoir un tri est en train de s'opérer. Pour ce qui concerne l'Alliance française de Bordeaux, nous avons décidé résolument de nous engager dans ce processus de labellisation. Nous devons prendre une décision, vous voyez, ici le 31 janvier, donc incessamment sous peu. Et nous avons, au niveau du conseil d'administration, décidé de nous y lancer. Et nous devrions obtenir ce label dans le courant de cette année 2007.
Ah bon, c'est très important. Nous pourrons en reparler d'ailleurs à l'occasion de façon plus spécifique. Une avant-dernière question que j'aimerais vous poser. Pour en venir à celle de Bordeaux, pouvez-vous nous préciser quel rôle joue-t-elle, donc l'Alliance, par rapport à la politique internationale de la ville de Bordeaux et de la région Aquitaine? Parce que Bordeaux, c'est quand même des grandes, grandes villes de France, hein, il ne faut pas l'oublier, avec un maire qui
est charismatique.
Charismatique, tout à fait. Tout à fait.
Bien évidemment, nous sommes une alliance implantée en région et nous devons tenir compte de l'environnement dans lequel nous nous situons. On ne se situe pas n'importe où et Bordeaux, effectivement, est une ville, je le disais, pour commencer cet entretien, une ville internationalement connue, ne serait-ce que par le vin.
Oui.
Et donc, la ville de Bordeaux et la région Aquitaine, étant donné que l'Alliance française de Bordeaux a vocation à agir sur l'ensemble de la région Aquitaine, la ville et la région ont des politiques internationales et des politiques de jumelage. Donc, nous nous inscrivons définitivement dans la politique de jumelage de la ville de Bordeaux et de la région. Bon, je vais parler par exemple de celle de la ville de Bordeaux. La ville de Bordeaux est jumelée grosso modo avec 18 villes à travers le monde, dans différents pays, au Québec, en Chine.
Mais alors, une question que je vous pose, parce que vous savez, j'ai tendance un peu à poser des questions comme ça de temps en temps. Je suis là pour ça d'ailleurs, nous sommes là pour ça. Mais lorsque vous avez une alliance française comme ça de Bordeaux, est-ce que vous avez, par exemple, vous gardez une sorte d'agenda des anciens élèves qui sont passés par l'Alliance française de Bordeaux? Et deuxièmement, comme vous avez un jumelage avec 18 villes, est-ce que vous avez là une sorte, avec ces 18 villes, dans ces 18 villes, une sorte de carnet très particulier où vous connaissez les francophiles de ces 18 villes?
Alors probablement, votre question est tout à fait pertinente parce que c'est un des sujets que nous avons abordé récemment au sein de l'Alliance française de Bordeaux. Cette démarche est probablement insuffisante aujourd'hui. Nous avons décidé effectivement de suivre de près au moins nos élèves qui sont passés par l'Alliance française, car ce sont des ambassadeurs ensuite de Bordeaux extrêmement utiles pour différentes occasions. Donc là, ce réseau international créé à partir de l'Alliance française de Bordeaux et ses jumelages est extrêmement
important. Ça,
très
parce
important.
Que 18 villes, dans quel domaine, quelles sont ces villes, quelques-unes au hasard?
Alors,
comme ça.
Aujourd'hui, il y a Québec, il y a Los Angeles, il y a Madrid, il y a Wuhan en Chine, il y a Munich, il y a Bristol.
Considérable. Voilà. C'est considérable.
Donc il y a des relations extrêmement, alors, qui sont plus ou moins développées, évidemment, selon les régions. Mais Bordeaux, par exemple, est jumelé avec Saint-Pétersbourg, ce qui est quand même une ville extrêmement importante.
Et donc, très
important. Prochainement, il y a un jumelage avec Riga, qui est également en train de se profiler à l'horizon. Et nous allons nous inscrire dans ces jumelages et proposer aux villes partenaires, évidemment, d'envoyer des jeunes de Bordeaux et de recevoir, ou de moins jeunes, et de recevoir des personnes de ces régions.
J'ai cru comprendre entre vos pensées que la ville de Bordeaux était plutôt tout à fait derrière vous. Vous aidez. Donc, vous souhaitez davantage d'aide ou c'est un peu difficile peut-être d'y répondre comme ça, mais on en souhaite toujours.
Oui,
toujours.
Évidemment.
Mais enfin, il y a tout de même un intérêt réel.
Oui.
Bon,
il y a un intérêt réel. Bon, alors qui se manifeste pas toujours à la hauteur
de vos espérances.
Mais petit à petit, on a le sentiment que la ville de Bordeaux prend en compte nos activités, considère l'Alliance française de Bordeaux comme étant un acteur utile et intéressant pour la politique internationale de la ville.
Très bien. Alors pour conclure, Monsieur le Président, est-ce que vous avez le sentiment que les alliances françaises sont des structures adaptées au monde d'aujourd'hui? Là, c'est une vaste et grande question.
Oui, c'est une. Là, je pense qu'il faudrait plus
d'une demi-heure. Quelques minutes.
Mon analyse est la suivante. Je pense que depuis que le monde a perdu ses repères habituels et notamment depuis la chute du mur de Berlin, depuis la chute des grands blocs, il y a aujourd'hui un besoin de repères. Donc à la fois le monde s'est globalisé et la nécessité pour dans ce monde globalisé d'avoir des repères culturels de plus en plus forts. Ensuite, la convention sur la diversité culturelle qui a été signée à l'UNESCO en octobre 2005 est extrêmement importante et porteuse d'avenir pour les alliances françaises en particulier. C'est de reconnaître la langue comme étant un élément de diversité et extrêmement utile pour le rayonnement d'un pays. Donc ça, on est à la fois sur un registre global et local. Et la langue et la culture constituent cette dimension locale. Et j'en veux pour preuve simplement, je vais peut-être pas m'appesantir trop longuement, mais aujourd'hui, si je me réfère simplement au monde économique, les entreprises françaises implantées à l'étranger, bien sûr, vont faire appel à des personnes vivant dans les pays à l'étranger, mais sont également extrêmement intéressées pour accueillir des jeunes chinois, mettons en Chine, qu'elles connaissent quelques rudiments du français. Aujourd'hui, la compétition économique qui semble-t-il était l'alpha et l'oméga de la globalisation, à mon avis, va être de plus en plus substituée par la compétition culturelle. Et la culture, comme d'habitude, prendra le pas sur l'économie, d'où l'importance des structures comme...
Et puis, là, je partage tout à fait votre vision des choses, Monsieur le Président, et n'oublions pas qu'actuellement, en Afrique, très nombreux Chinois viennent travailler en Afrique et apprennent le français, car on a besoin du français, notamment en Afrique.
Évidemment.
Alors, si vous voulez, préciser notamment, évidemment, même si ça coûte cher, mais préciser qu'un certain nombre de ces Chinois peuvent venir, de cadres supérieurs peuvent venir directement à Bordeaux, il y a peut-être lieu de créer une petite cellule particulière et tout à fait intéressante.
Ah oui, oui, absolument. On a un exemple tout à fait précis à Bordeaux, dans une grande entreprise qui a fait appel à une technologie chinoise avec des Chinois qui sont là pour 2 ans. Et évidemment, c'est extrêmement intéressant que c'est une occasion pour nous de pouvoir toucher ces populations et de leur apprendre.
Et du côté, on n'a pas du tout parlé, et ce sera un peu mon dernier point pour aujourd'hui, avant votre mot final, Monsieur le Président, on n'a pas du tout parlé de l'Amérique du Sud.
Alors l'Amérique du Sud, oui, c'est un, j'aurais pu l'évoquer, car nous avons effectivement des relations.
Vous n'avez pas d'étudiants ou...
Si, on a des étudiants, des Brésiliens notamment, en nombre très important, des Mexicains.
Ah, très important.
Les Mexicains également. Il faut savoir que le Mexique est un des premiers pays pour l'apprentissage de la langue française à travers 50 et quelques alliances.
Ah oui, ils ont un nombre.
C'est extraordinaire. Et nous avons dans notre conseil d'administration une personne qui passe beaucoup de temps en Amérique latine et en Amérique du Sud pour prendre des contacts avec les alliances de cette région, Paul Beaumartin, et donc qui est régulièrement, il vient de passer 2 mois dans cette région du monde et a visité quelques alliances pour faire connaître Bordeaux dans ces alliances.
Et vos échanges avec l'Afrique, est-ce qu'il y a des pays africains? Parce qu'évidemment, l'Afrique étant francophone, donc...
Oui.
Il n'y a pas tellement lieu, mais par contre, d'autres pays anglophones de l'Afrique, vous n'avez pas du tout d'étudiants.
Exceptionnellement, on a quelques étudiants.
De quel pays ça?
On a du Zimbabwe, on a eu du Nigeria, d'Afrique du Sud, donc des pays anglophones. Donc là, il y a quelques étudiants qui, de manière tout à fait sporadique.
Bon, est-ce que nous arrivons à la fin de notre émission? Est-ce que vous voulez quand même nous passer 2-3 messages forts, c'est-à-dire... pour les proches années qui viennent, vous souhaitez un développement particulier ou est-ce qu'il y a un message à passer?
Oui,
je crois que vous avez passé pas mal.
Oui, je pense que le principal message, c'est de dire que loin d'être des structures un peu dépassées, les alliances françaises et celles de Bordeaux comme les autres sont des structures modernes aujourd'hui. Et j'espère que les Français en France s'aperçoivent de cette richesse et de cette chance pour faire face aux enjeux auxquels nous avons à faire face aujourd'hui. Et Dieu sait si la France est confrontée dans cette période, disons, de débat
préélectoral
à ces enjeux. Et les alliances françaises, d'une certaine manière, je pense, peuvent jouer un rôle très très important dans la reconquête et dans la confiance retrouver que tout le monde appelle de ses voeux.
Je vous remercie beaucoup pour ces renseignements extrêmement intéressants et à bientôt, j'espère.
Merci beaucoup. Voilà.
Je termine cette émission avec le président Georges Viala, président de l'Alliance française de Bordeaux-Aquitaine. Et je le remercie infiniment et je signale à tous nos auditeurs qui peuvent télécharger cette émission sur l'Alliance française de Bordeaux avec son président qui est notre invité. Bien entendu, dans notre très belle médiathèque. Merci.